Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine à Paris. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio Avignon, par exemple sur 95.2, et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec l'excellence du vignoble de Saint-Péret, le fonctionnement de l'odorat quand on déguste des vins, l'histoire de France racontée de café en bistrot, et puis le Vino Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Piau, André Derrieux, David Cobol et Philippe Forbach. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve André Derrieux. Vous êtes notamment consultant en patrimoine de la vigne et du vin pour un Balance Tempore version Malvoisie avec une ressemblance lointaine à Angèle, non ?
Alors, Malvoisie par-ci, Malvoisie par-là. La Malvoisie, on la trouve partout. Mais ce n'est jamais la même. La Malvoisie, c'est du cépage, c'est du vin, mais jamais les mêmes. Exemple pour ce qui est des cépages, dans la Loire, dans les coteaux d'Ancenis. En Savoie, en Suisse et en Allemagne, on trouve la Malvoisie, mais sous ce nom, c'est en fait du Pinot Gris. D'ailleurs, je signale en passant l'extraordinaire Malvoisie de Marie-Thérèse Chappaz dans le Valais. Dans le Languedoc, il y en a, mais c'est en réalité du Bourboulinque ou du Macabeo. Dans le Roussillon, en fait, c'est du Tourbat. En Corse, c'est du Vermentino. Donc, les cépages dits Malvoisie n'ont pas de parenté entre eux. Rien qu'en Italie, on trouve 15 variétés de Malvasia de toutes les couleurs. Fait amusant, il est fort probable que dans les verres de la Seine de Vinci, peinte dans l'église Santa Maria delle Grazie, ce soit de la Malvasia di Candia Aromatica, dont Vinci avait une vigne donnée à lui par le duc de Milan, juste de l'autre côté de la rue. Ce vin est d'ailleurs à nouveau produit à titre expérimental et va connaître, année Vinci oblige, sa première mise en marché ce mois-ci. Grosse versatilité géohistorique aussi pour les vins appelés Malvoisie. En 1591, dans Richard III, Shakespeare fait noyer Georges Plantagenet, duc de Clarence, dans un tonneau de Malvoisie, de Malmsey, comme on dit autrement. David Cobold y était.
Oui, alors je joue le rôle du premier assassin, first murderer. Take that and that, parce qu'on poignarde d'abord le duc, parce que c'était un traître. Hein.
D'abord on poignarde, après on discute, ça me va.
Donc take that and that, and if all this will not do, I will drown you in the Malmsey butt within.
Formidable.
Donc il le jette dans le fût de Malmsey.
Toujours dans Shakespeare, on voit passer les compagnons de Falstaff dorés par un reflet de vin de Malvoisie. En 1688, pour La Fontaine, les magasins de Malvoisie font partie de l'attirail de la goinfrerie. L'encyclopédie précise, juste avant la Révolution française, « Aujourd'hui, nous ne le goûtons plus, la mode en est passée. Ce que nous nommons vin de Malvoisie n'est point un vin de Grèce. C'est un vin qui se recueille dans le royaume de Naples ou une espèce de vin muscat de Provence qu'on cuit jusqu'à l'évaporation du tiers et dont on fait peu de consommation. » Pourtant, en 1818, le gastronome Grimaud de la Reynière préconise en entrée de repas une Malvoisie forte et sucrée. Dans les Buddenbrooks, roman qui se passe dans les années 1830 à Lübeck, Thomas Mann fait sortir de la cave un vieux Malvoisie jaune comme l'or et doux comme le raisin. C'est donc en principe un vin doux avec une bonne teneur en alcool, aux arômes de miel. Pourtant, en 1851, Nerval parle d'un vin à saveur de goudron. Il faut quelque temps pour se faire à ce raffinement hellénique nécessaire sans doute à la conservation du véritable Malvoisie. En 1890, Maupassant déclare d'un vin goûté sur l'île de Salina près de Lipari. C'est sur cette île qu'on récolte le vin de Malvoisie, on dirait du sirop de soufre. C'est bien le vin des volcans, épais, sucré, doré et tellement soufré que le goût vous en reste au palais jusqu'au soir, le vin du diable. Bon, on trouve et on a trouvé du vin de Malvoisie à Cuers en Provence, à Tenerife dans les îles Canaries, à Madère, à Sitges, en Algérie, en Toscane avec le vino Santo. Cépage ou vin, on buvait donc de la Malvoisie partout. Malvoisie est une marque mondiale de qualité, d'exotisme, de caractère agréable et on ne s'embarrasse pas d'empélographie ou d'appellation. Tout le monde s'approprie ce nom prestigieux comme on a pu voir bien des vins usurper le nom de champagne ou de cognac, la rançon de la gloire. Mais d'où vient ce nom de Malvoisie ?
Ah,
et si c'était le nom d'un port ?
Un port !
On en connaît des ports qu'ils possèdent ou non des vignobles et qui ont donné leur nom à des vins. Le port fait export, le port fait transport, fait marque. Roquemort, Bordeaux,
Gaillac,
Bandol, La Rochelle, Bercy. Eh bien oui, balance ton port, Malvoisie. Eh bien le voilà. Un promontoire, un rocher de 1,8 km de long et 300 mètres de haut, une presqu'île, une forteresse, mais surtout un port, bien placé sur les routes commerciales méditerranéennes à la pointe du Péloponnèse. Tellement bien placé que du 15e au 18e siècle, deux puissances se le disputent, les Vénitiens et les Turcs. Son nom, Monemvasia. Déformé selon les langues, en Malvoisie, Malmsi, Malvasir, Malvasici, à Monemvasia s'embarque ou transité dès le XIIIe siècle pour toute l'Europe des vins d'origine grecque devenus synonymes de vins supérieurs. La flotte vénitienne était reine dans cette activité et le nom de Malvasia désignait même les tavernes à Venise. On le trouve dans le théâtre de Goldoni. Toutes les Malvoisies du monde, des copies, viennent donc du succès de ce port de Monemvasia et de sa vocation à exporter des vins prestigieux, ceux dont parle encore en 1975 un enfant du pays, le poète grec Yanis Ritsos, dans son recueil Monemvasia. Quel vin parfumé, recherché à l'ouest comme à l'est. Et il célèbre aussi les femmes de la presqu'île qui aidaient au pressoir et transportaient le moût dans d'énormes tonneaux. Et si on veut goûter aujourd'hui ce qui serait une vraie Malvoisie après une période d'oubli, il y a 20 ans, le vigneron Georges Tsibidis s'est fixé comme objectif de faire renaître la Malvoisie sur son lieu d'origine. Il élabore une cuvée à partir de raisins séchés au soleil, passeriers, des cépages Monemvasia, Sirtico, Kidonita, Asprudi. L'AOP Monemvasia Malvasia est aujourd'hui et depuis 2010 la plus jeune appellation AOP de Grèce.
Bravo CQFD, joli papier comme d'habitude André Rieu, Invino. Sud Radio retrouve Philippe Aubrac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, pour nous amener à Saint-Péray. Saint-Péray, c'est dans quelle région, Philippe ?
Saint-Péray, c'est dans la vallée du Rhône, c'est l'extrémité sud de la Drôme, effectivement, de septentrionale, en Ardèche.
Est-ce qu'il y a de la Malvoisie à Saint-Péray ?
On pourrait peut-être penser que...
Deux, trois pieds, comme ça.
Qu'on en trouve un peu, mais, la Marsanne...
Il
y a un port fluvial, hein, exactement, on est juste en face de Valence. Effectivement, il y a une activité portuaire, fluviale, qui était plus active à certaines époques qu'aujourd'hui. Les fameux marailleurs du Rhône. Alors l'appellation Saint-Péray, c'est une petite appellation. Hier, je vous ai parlé de l'étoile, c'est 70 hectares, mais c'est la même surface.
Oh là là.
On y trouve essentiellement des vins blancs également, puisque le cépage utilisé, c'est la Marsanne pour beaucoup, et un peu de Roussanne également en complément. Donc on n'y produit que du vin blanc. La structure géologique, elle est de base granitique dans ces coins-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un magnifique coteau qui prolonge le sud de l'appellation Saint-Joseph, mais surtout Cornas. Et beaucoup de producteurs, d'ailleurs, sont propriétaires à la fois sur Cornas et Saint-Péray. C'est un peu historique. Pendant très longtemps, on a parlé beaucoup de vin pétillant ces dernières semaines autour de la table. Eh bien, c'était pétillant, le Saint-Péray. On y faisait une méthode...
Mais naturellement, ça pierlait ou ça
Il y avait à la fois une méthode traditionnelle, mais également spontanée, avec une fermentation repoussée et ensuite aussi une double fermentation dans l'esprit champenois du terme.
Aujourd'hui, dites la méthode anglaise.
Dites la méthode...
Un peu comme un condom, quoi. Hein.
De la Tamise, c'est ça ? Voilà, sur les bords de la Tamise. Donc, on produit toujours un peu de Saint-Péray mousseux, effervescent. C'était la différence, d'ailleurs, entre le mousseux qui était, lui, élaboré sous la forme de la première méthode et le Saint-Péray, effectivement, traditionnel, effectivement, sous la méthode en double fermentation. Ça a un peu disparu. Aujourd'hui, ce sont plutôt les vins blancs tranquilles, en opposé aux vins effervescents, qui font la belle part de cette appellation. Les arômes sont souvent marqués par des notes de fleurs blanches, un petit peu de miel, parfois d'abricots, d'amandes, de pain grillé, en fonction des élevages qui sont assez fins et plutôt intéressants. Ça devient vraiment un vin original, le Saint-Péray, alors que c'était un peu considéré comme le vin de l'apéro dans lequel on mettait finalement une liqueur de mûre chez nos amis,
un petit peu de saucisson,
et dont on faisait avec effectivement le côté mousseux de cette région. On l'appelait ça le miro. Voilà, alors
le miro,
ça s'appelait le miro,
mais ça rendait aveugle.
M-I-R-O, voilà, c'était peut-être
ça a inspiré beaucoup de peintres,
un hommage exactement particulier aux peintres de par une couleur tout à fait originale. Aujourd'hui, ce sont plutôt devenus des vins qui peuvent être d'excellents vins d'apéritifs, mais qui sont plus gastronomiques qu'avant, et ce sont des vins qui en plus se boivent facilement. Aujourd'hui, les 2017 par exemple, et même les 2018 se goûtent très bien, là plutôt en début de repas sur des poissons et sur notamment sur les poissons de rivière. Mais dès que ça prend un petit peu d'âge, dès qu'on a ce gras, cette texture, ces notes un petit peu torréfié Caparette, ce côté un peu beurre-noisette et autres. On peut aller là pour des plats plus raffinés, des grands poissons de mer ou d'océan, voir des volailles, voir des fromages qui sont pas loin.
Pourquoi pas sur le porc?
Exactement, ça peut être pas mal aussi.
Un porcelet.
Voilà,
à la broche,
notamment sur
cochon de lait,
des cochons de lait. Cochons de lait grillés. Je suis sûr que ça va merveilleusement bien. Et en Ardèche, on a notamment cette saison des marrons et des châtaignes. Et dans les marrons dont on peut agrémenter quelques crustacés, c'est aussi un mariage tout à fait intéressant. Mm-hmm. Parmi les grands domaines emblématiques ou les grands noms de la région, j'aime particulièrement les vins d'Alain Vosges. C'est un peu la référence de l'appellation. Certifié en biodynamie, ça ne justifie pas tout, mais en tout cas, il y a une véritable démarche engagée depuis 2013 dans ce sens-là et qui donne à ces cuvées beaucoup de personnalité.
Ça peut se garder, Philippe, ou pas trop?
Ben je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des vins de très grande garde. Les bulles de l'appellation ont plutôt tendance à se boire assez rapidement. Et dans les vins blancs secs, il y a certaines cuvées qui bénéficient d'un élevage long, sous bois, sur lit, et qui donnent plus de densité, plus de matière au vin, qui ont nourri le vin pendant son élevage, et qui pour le coup peuvent donner des vins qui 10 ans après sont encore tout à fait remarquables. J'aime beaucoup aussi la démarche de l'équipe des vins de Vienne, à Gaillard, Villard et Cuiron, qui élabore non seulement des vins sur les coteaux de Sessuel en face, en remettant en valeur des terroirs un peu abandonnés, mais qui également ont une démarche à la fois de sélection et d'élaboration de vins sur les autres appellations, et notamment Saint-Péret, qui est une appellation qui était un peu oubliée, hein, un peu localement, avec quelques lettres de noblesse tout à fait locales. Donc, et aujourd'hui, c'est une appellation qui gagne du terrain, même si 70 hectares, il peut appartenir à la conquête du monde.
Température de service, Philippe, de Alors, blanc, en tout cas.
Jeune, un tantinet frais, autour de 8, c'est bien.
D'accord.
Au plus on prend de l'âge, au plus c'est intéressant pour les blancs. C'est pas spécifique à Saint-Péret, mais c'est spécifique au grand blanc. On peut monter et même servir à 12 voire 14 degrés blanc. C'est pas du tout antinomique avec justement le message qu'on veut passer.
C'est pas une aberration, quoi.
Voilà. D'autres domaines. J'ai découvert récemment un petit domaine qui s'appelle le domaine le Meunissier. Vraiment un petit domaine qui propose une cuvée 50-50 Marsanne-Roussanne, donc un peu l'équilibre parfait, vinifié en barrique avec des lits qui donnent de la sucrosité, de la densité au vin, et qui vaut vraiment le détour également. Et pour terminer, on fait le domaine du Tunnel pour la soif, et bien sûr le domaine Clap pour la fin.
Oh, merci beaucoup Philippe Forbach, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour le Vino Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas Paris, place de la Madeleine, au 31 place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et le Vino Quiz. Hélène.
Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau qui est cette semaine le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La question de ce week-end est: quel événement est organisé par Terre de Vin ce week-end? Réponse A, Bali Testing. Réponse B, Bordeaux Testing. Réponse C, Perpignan Testing. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
réponses. Merci beaucoup. Maintenant, nous débutons le Cobalt Testing avec Invino sur Radio qui retrouve David Cobalt, le président de l'Académie, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux.
Merci pour la promotion.
Pour une chronique qui sent bon aujourd'hui. Hein.
Ben, ça dépend.
Ah.
Parce que l'odeur est neutre. Alors, on sent des bonnes choses et les moins bonnes. Alors on va commencer par une petite définition que, évidemment, j'ai piochée chez Wikipédia, excellent site, qu'il faut soutenir. L'olfaction ou l'odorat est le sens qui permet d'analyser les substances chimiques volatiles, dites odeurs, présentes dans l'air ou dans d'autres support. Ce sens est moins utilisé chez l'être humain que chez de nombreux mammifères pour lesquels il est prépondérant. Je pense aux chiens et aux chats notamment. Néanmoins, l'odeur personnelle semble encore jouer un ou plusieurs rôles chez l'humain en termes de communication non-verbale à plusieurs âges de la vie et avec des nuances, notamment selon le sexe, homme, femme. Normalement, il y a deux sexes, hein, je ne sais pas pourquoi il spécifie ça. Et selon l'âge ou selon les contextes socioculturels, je vous laisse imaginer la suite.
Mais transgenre, on doit exister, ouais, bah, ça, David. Hein.
Alors, quelques faits. Donc, je vais vous annoncer quelques faits et puis après, je vais vous parler d'une découverte assez étonnante faite par une équipe de chercheurs israéliens. Vous allez voir que c'est très surprenant. Alors, première remarque, est-ce que l'odorat est sexué? La plupart des études qui ont comparé les capacités olfactives chez les hommes et les femmes ont conclu que les femmes sont plus douées que les hommes pour détecter les odeurs, non seulement les détecter, mais aussi les identifier, les discriminer et de les mémoriser. Alors, ça dépend beaucoup de l'individu aussi, Mais dans mon expérience, j'aurais tendance à confirmer cela. Je ne sais pas quel est l'avis autour
oui,
de la table.
Oui, Hélène, vous êtes une femme, par exemple
Ah ben, oui, il est évident que je suis infiniment supérieure à vous sur le plan de l'odorat.
Enfin, je m'attendais.
La question ne se pose même pas.
Ça André, vous qui êtes un homme.
En tout cas, elles sentent quand on veut les attirer dans un mauvais coup.
Oui, ça c'est le feeling. Ça, c'est...
Je ne sais pas, ça ne fait jamais arriver. Je n'ai que des bons coups.
Alors pourquoi est-ce que si les femmes sentent mieux que nous, il n'y a aucune femme qui a été meilleure sommelier du monde?
Ah.
Alors, ça, c'est
le sexisme
débat.
De la profession, cher Alain.
Ah, pas du tout, non, pas du tout.
Est-ce que je peux revenir à mon sujet?
Oh, revenons à vos moutons.
La sensibilité, ne fait pas tout, mais c'est vrai que de plus en plus, d'ailleurs, il y a des femmes qui arrivent sur le podium du meilleur sommelier du monde.
Sûr.
Et gageons que dans le
d'ici 3-4 siècles, il y en a bien une qui va gagner.
Non. Ah bon. Je suis sûr, avant, et d'ailleurs, dans la plupart des concours organisés par l'Union de la sommelier française de ces dernières années, un sur deux remporté par une femme. Donc
on salue Pascaline
vraiment.
Lepelletier. Alors, et on donne la parole
bon,
à David
Cobol.
Même si elle défend trop les vins de nature.
Ah, bon, d'accord. Tant qu'il n'y a pas de vegan, voilà. Alors.
Le goût qui permet de détecter les substances chimiques en solution est un sens proche de celui de l'odorat. D'ailleurs, on sait qu'il y a une connexion entre le palais et la fosse nasale par le passage rétro-olfactif. Mais c'est intéressant de noter que dans le milieu aquatique, il n'y a aucune distinction entre goût et odorat.
On a du mal c'est à sentir sous l'eau, quoi, c'est ça
Non, mais si vous êtes un poisson, par exemple, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Donc devenez un poisson dans une future vie.
Poisson, David,
c'est ça, on a demandé à un poisson s'il sentait les crevettes.
Alors, l'odorat du chat est le plus développé de tous les mammifères jusqu'à ce jour. Celui du requin est le plus développé de tous les animaux. Donc méfiez-vous, si un requin vous sente, vous savez ce qui vous attend.
Il sera ivre. Alors
l'odorat peut être sollicité par voie directe ou par voie nasale. La bulbe olfactive, ou plus exactement la muqueuse olfactive, couvre environ 10% de la surface de votre cavité nasale. Donc vous pouvez mesurer, vous allez voir, hein, à l'intérieur, c'est compliqué, mais on peut mesurer. Cette muqueuse est composée de neurones olfactifs, bien plus sensibles que les neurones gustatifs. Elles sont spécialisées et bipolaires. Un bipolaire, comme certaines personnes d'ailleurs. Il présente des cils à l'extrémité des dendrites qui baignent dans la couche de muqueuse, tapissant la cavité nasale et qui aboutissent dans l'épithélium olfactif. Un corps cellulaire situé dans le premier tiers de la muqueuse et un axone communiquant avec le bulbe olfactif. Voilà, c'est important, retenez ce terme, bulbe olfactif, vous allez voir tout à l'heure. Alors, la perte totale de l'odorat s'appelle l'anosmie, et sa diminution importante est appelée hyposmie. Hein, maintenant, vous savez. Hein.
Hyposmie.
Elle est plus souvent due à des traumatismes, à certaines intoxications ou des infections mal soignées, une rhinite aiguë, par exemple, mais peut-être aussi d'origine génétique ou congénitale, ou faire suite à la prise de certains médicaments. Donc, méfiez-vous. L'anosmie peut concerner toutes les odeurs ou être sélectif. Donc, vous pouvez avoir une sensibilité. Et on sait très bien que nous avons des sensibilités variables à certaines odeurs. Il y a des gens qui ne sentent pas du tout l'odeur du bouchon, du goût du bouchon, ou sont plus ou moins sensibles. Elle est souvent accompagnée d'agosée, qui est le son équivalent au goût. On voit encore l'attachement du goût et de l'odorat. Et une perte d'odorat signale parfois que le sinus s'est bouché, tout simplement.
C'est ça, il faut juste se boucher.
Non, je reviens à cette étude qui est très intéressante, qui montre une capacité étonnante, probablement d'adaptation du cerveau. Nous pensions que la bulbe olfactive était essentielle à la captation des molécules ou des envois par les neurones des molécules odorantes, mais une équipe israélienne rapporte le cas de deux femmes ayant un odorat normal, mais qui ne semblent pas posséder de bulbe olfactive. L'étude qui a été publiée tout récemment en novembre dans la revue Neuron révèle que pendant l'étude qui avait un tout autre objet initial lié à l'intelligence artificielle, il s'est avéré que deux femmes percevaient normalement les odeurs alors qu'une analyse IRM de leur pifomètre ne détectait aucune bulbe olfactive chez elles. Or, intriguée par ce constat, cette équipe de l'Institut Weizmann a élargi leur champ de recherche et ont découvert trois autres femmes. Encore une fois, c'est les femmes étaient à l'honneur, je ne sais pas, un homme, dont une est gauchère.
Ça, c'est un détail hyper important.
Oui, le
gaucher qui sent bon, là.
Ça s'appelle une pollution.
C'est précis.
Oui. Et elle avait pris d'ailleurs un café à 7h ce matin.
Pollution systémique. Dépourvue de toute bulbe olfactive, mais qui, dans les scores ou tests d'olfaction, sont bien supérieurs à ceux des sujets normaux. Alors, la question qui se pose est donc, comment un être humain sans bulbe olfactive peut-il percevoir les odeurs? S'agit-il d'un exemple de plasticité neurone, ou bien est-ce que la bulbe olfactive a pu migrer dans le cerveau? La conclusion des scientifiques est en tout cas aussi factuelle que humble, les humains je cite l'Institut Weizmann, les humains peuvent conserver l'olfaction sans bulbe olfactive apparente, mais nous ne savons pas pourquoi.
Merci beaucoup, David Cobol.
Tout ça pour ça.
On va retenter en podcast cette émission-là pour voir bien étudier chaque mot. Merci en tout cas, Nvino Sud Radio. Retrouvez Hélène Pio, toujours chef de rubrique au magazine Régal, pour nous présenter l'histoire de France racontée du café en bistrot, version Pierrick, c'est ça?
Absolument. Je suis allée au bistrot avec Pierrick Bourgaud, qui vient d'écrire Bistroscope, l'histoire de France racontée de café en bistrot aux éditions Chroniques. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Effectivement, c'est un très très beau cadeau. Il vous reste encore peu de temps avant vos cadeaux de Noël.
Bah,
je vous encourage à acheter ce livre, Bistroscope. Gros coup de cœur sur le fond et sur la forme. Il est magnifique déjà.
Vous parlez de qui? De Pierrick, le bouquin?
Non, je parlais du livre. Là. Cet homme a une compagne délicieuse. Je m'en voudrais d'empiéter sur ses terres. Non, le fond du livre, Bistroscope, vous m'avez troublé, qui parle des bistrots, on va dire, des origines à nos jours.
Tout à fait.
On n'a pas le bistrot d'Adam et Ève, mais pas loin.
Presque. On a, depuis les origines de l'humanité, il y a des tavernes, des auberges, des endroits où tous les voyageurs s'arrêtent pour manger, dormir, boire. Voilà, c'est ce qu'on sait. Mais bon, alors, le plus amusant, c'est que les Thermopolia, par exemple, on en voit à Pompéi, ce sont des tu sais, le fast-food a été inventé par les Romains, en fait, par l'Empire romain. C'est un angle avec des boissons.
Voilà,
des boissons avec des olives, avec du vin, avec des nourritures méditerranéennes de l'époque. Hein. Il n'y avait pas de poivrons, pas de tomates, pas de pommes de terre. C'était
Et donc, effectivement, alors depuis cette invention, forcément, le concept bistrot café a évolué. Mais le mot bistrot dans la langue française, une fois pour toutes, Pierrick, c'est russe ou c'est pas russe?
Ah, une question, effectivement, la question qu'on pose toujours. Alors, la légende dit que les Russes, en 1814, quand ils sont arrivés, le Paris a été occupé quelques mois, allaient dans les bistrots, notamment. Il y a une plaque à Montmartre qui raconte ça. Ouais. Ici, pour la première fois, le mot bistrot.
C'est la mère Catherine.
Exactement, a été prononcé par un Russe. Qui était pressée, qui voulait, ça veut dire vite, donc elle voulait boire un coup rapidement. En fait, c'est une jolie histoire. Ça montre combien les bistrots sont des vecteurs d'histoire. Mais
c'est vrai ou c'est pas vrai alors?
Eh ben, écoute, on pense que non, parce que la littérature, on retrouve ce mot-là dans la littérature fin 19e, dans les souvenirs de la petite et la grande Roquette, vers 1884. Le bistrot, eh ben, c'est le marchand de vin, en fait.
Dans le bistrotier, il vend du vin.
Voilà, en fait, le bistrot, on appelle ça le bistrotier maintenant, mais c'était, dans ce bouquin de 1884, on parle de le bistrot, l'astéris, et bien, une petite note en bas de page, bistrot égale marchand de vin.
Voilà. Ah d'accord, et à bistrot, il y a un thé ou il n'y a pas de thé alors?
Alors, il n'y avait pas de thé à l'époque, mais c'était le marchand de vin. On allait, par exemple, à l'anniversaire du bistrot. C'est une personne, le bistrot. Voilà.
D'accord. Ça a commencé comme bistrot. Ça. Je connais quelques-uns, monsieur voilà. Bistrot.
Alors, oui. Alors dans votre livre Bistroscope, vous parlez aussi de cabaret d'eau chaude ou froide. Alors moi, je connaissais l'eau chaude, l'eau froide. J'avais à peu près réussi à inventer l'eau tiède. Mais alors, au cabaret, là, je ne vois pas.
Et oui, alors les Romains, effectivement, étaient tout à fait intéressés par les tisanes, plus ou moins chaude, plus ou moins froide. Enfin, c'était très précis. C'est un petit peu comme les dégustateurs de vin qui parlent. Alors, ce n'était pas des degrés, il n'y avait pas de quoi le mesurer. Mais la température de consommation était très importante, aussi bien pour les infusions. Et puis, on sait aussi qu'ils faisaient des glaces, qu'ils conservaient des glaces à partir de neige de l'hiver. C'est incroyable, ça, quand même, dans des caves. Et puis, ils faisaient des sorbets en été, dans leur thermopolia.
Alors, vous faites une progression historique, hein, bien sûr, de l'histoire du bistrot dans votre livre. Moi, je me suis amusée à sauter un peu du coq à l'âne. Il y a aussi, bien sûr, des épisodes bien plus dramatiques. Le 31 juillet 1914, ils ont tué Jaurès. J'ai appris que Jaurès venait de demander une pêche au kirsch au moment où il a été
pof.
Tué. Et ben,
moralité, ne demandez jamais de pêche au kirsch.
Mais c'est ça, c'est dangereux, les pêches au kirsch.
Il a pris une pêche à manger
au kirsch. Est-ce que ça vient de là, l'expression prendre une pêche? On ne sait pas.
Inventé, quoi. Bon, alors, vous nous rappelez quand même le titre de cet ouvrage, parce que ça, c'est aussi un super cadeau de Noël. Hein,
Et alors moi, j'ai une question sur l'iconographie, parce qu'elle est magnifique. C'est vous qui avez trouvé les...
Oui, tout à fait, avec les éditions Chroniques.
C'est intéressant, c'est beau. Vous nous rappelez l'éditeur, le prix?
Bistroscope, Pierrick Bourgaud, l'histoire de France racontée de café en bistrot aux éditions Chroniques, 192 pages, 29 €, joyeux Noël, c'est un super cadeau.
Oh là là, merci beaucoup Pierrick, merci également à vous. Hélène, un grand merci à André Derieux, Philippe Forbach et David Cobol, sans oublier Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi que Sébastien pour la technique. Philippe Forbach, pour Noël, vous serez où alors dans 10 jours là? Tout est prêt pour le 24 ou pas?
Tout est prêt. Une partie dans le sud de la France, Marseille, et puis le reste du côté de Lille,
bon.
avant de m'envoler pour un pays européen.
secret pour l'instant.
Et ami, quoi. C'est David Cobol. Il sera dans le Gers. Vous serez où, vous, Hélène ?
Eh bien, écoutez, je serai à Paris. Mais alors, c'est la différence avec Philippe Forbrac, c'est que chez moi, rien n'est prêt. Il y a un sapin, c'est
et
tout.
Et vous, André ?
Pareil, grande improvisation, je vais essayer de chercher du soleil.
Allez, très bien. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur, notamment sur les vacances d'Hélène, hein, sur sudradio.fr et invinoradio.tv ou notre page Facebook. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas Lecavis, fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, observez la plus grande des modérations.
Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.